Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce début du mois de mai, pour aujourd'hui faire un petit point un peu plus géopolitique, économique sur les ruptures à venir et les ruptures anticipables dans,
Et en cours.
et en cours dans ce monde qui de plus en plus nous rapproche les uns des autres et les conséquences qui pourraient être les nôtres demain. Alors, il y a une loi en. Il y a une loi dans l'armée qu'on retrouve souvent, qui est la loi de l'emmerdement maximum.
Oui.
Elle est aussi connue des Américains comme la loi de Murphy, c'est-à-dire qu'en général, si un toast doit tomber, il va tomber du côté de la confiture, et que si un truc doit couiller, il va couiller en cascade.
C'est ce que dit Chirac, les emmerdements, ça vole toujours en escadrille.
En escadrille. Et on peut prendre en exemple la crise asiatique que tu as bien connue de
Ben oui.
1997-99, qui était en raison d'une accumulation excessive de dettes en dollars américains et à la suite d'une dévaluation du
Je
baht
peux expliquer
thaïlandais.
rapidement pourquoi.
Oui,
C'est
bah vas-y.
qu'il y avait des taux de change fixes. Donc, les taux d'intérêt aux États-Unis étaient, mettons, à l'époque à 4, et les taux d'intérêt en Thaïlande étaient à 7. Tu mets un taux de change fixe entre les deux, et tout le monde va emprunter des dollars à 4 pour les mettre à 7. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as une dette en dollars qui s'accumule, qu'il faut payer, et puis un jour, la balance des comptes courants du pays se détériore, et ils commencent à devoir sortir de l'argent, et donc ben, il y a trop de dollars, il n'y a plus assez de Thaï baht, et prouh, le taux de change fixe saute. Et donc c'est ça qui a créé la crise asiatique, c'était les taux de change fixe. Et puis après ça, comme c'était une très bonne idée, nous on a créé l'euro, mais tu vois, c'était il y
Oui, mais
a...
alors il faut rappeler donc pourquoi je parle de ça, c'est que ça a rompu leur ancrage au dollar.
Bien
La
sûr.
roupie indonésienne à l'époque avait fini par perdre 85% de sa valeur entre l'automne 97 et l'été 98. Et
Et là, ça me téléphonait en me disant, mais parce que
il venait de partir en Asie à ce
il venait de
moment-là,
partir en Asie, il me disait,
mon frère.
c'est normal qu'une monnaie baisse de 10% en une journée. Je lui dis, ben, c'est pas vraiment normal, mais ça peut arriver.
Mais la chose horrible, c'est qu'évidemment, la douleur à Jakarta à ce moment-là était relativement intense et ça avait généré des émeutes raciales contre les Chinois. C'est-à-dire que il faut
Ben, il
voir.
faut toujours, quand il y a un truc comme ça qui se passe, si tu veux, c'est René Girard, on cherche toujours le bouc émissaire, quel est le salopard, quoi, on trouve toujours un.
Et c'est là où la loi de l'emmerdement maximum arrive, c'est que vous pouviez vous dire, bon ben voilà, tout va mal, quelle est la dernière chose qu'il faudrait qu'il arrive? C'est qu'en plus on est à acheter des réserves alimentaires,
Que le prix des produits alimentaires monte.
monte, et qu'on est à les acheter en dollars puisqu'ils n'en avaient plus. Bam, El Niño arrive. Alors pourquoi on vous parle d'El Niño? Pour les anciens, vous vous en souvenez sûrement. C'était quelque chose dont on nous parlait beaucoup au début des, enfin dans les années 90, au début des années 2000, et qui
Et en
était,
70.
voilà. Mais ça existe pour de vrai. El Niño, c'est un phénomène météorologique très important. C'est que l'océan Pacifique se réchauffe, ce qui déclenche des sécheresses en Afrique, en Australie, en Indonésie, ainsi que des précipitations excessives le long du Pacifique. Et ça va effectivement, au Pérou et en Équateur. Alors, pour ceux qui s'en souviennent aussi, quand les Jeux Olympiques avaient été faits dans le nord
Du Canada à
du
Whistler.
Canada, à Whistler, c'était une saison où il avait fait que pleuvoir, enfin, encore plus que d'habitude. Et évidemment, la neige était du slush et ça avait été horrible à cause du fameux El Niño.
C'est l'année où ils ont choisi d'avoir les Jeux Olympiques là-bas. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de neige, on skiait sur les cailloux, quoi.
Alors, ça peut entraîner une hausse de température de plus de 2 degrés. Et pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que, on le sait, on va avoir une hausse énergétique. Et qu'aujourd'hui, la probabilité qu'un super El Niño au second semestre 2026 ait lieu est jugée par les climatologues très élevée. Alors, vous allez me dire, c'est eux aussi qui rendent les économistes
Oui,
suaves?
il y avait, si vous voulez, il y avait les astrologues assez sérieux, les économistes pas vraiment sérieux et les météorologues. Alors là.
Voilà, donc c'est eux qui vous permettent d'avoir l'air sérieux, mais il n'empêche que les gens qui étudient ces choses-là disent, écoutez, on pense qu'on pourrait être au lendemain d'une
Et si un
grande
El
crise.
Niño sans engrais, ça ne va pas aider non plus.
Alors voilà. Alors, il est à noter cependant que bien que tout ait augmenté pendant cette crise-là du détroit d'Ormuz, les céréales n'ont pas beaucoup bougé. Le prix des céréales n'a pas tellement bougé que ça. Alors, on peut l'analyser de plusieurs façons, parce qu'on a une population vieillissante, parce que grâce aux Chinois, dans certaines régions d'Afrique, les machines-outils sont arrivées, donc il y a eu des gains de productivité énormes qui ont permis de combler quelque part d'autres défaillances.
En Inde aussi, oui.
Il y a eu aussi, je t'ai dit, un effondrement de la démographie mondiale.
Oui.
Mais on peut quand même se poser la question dans le temps à venir de l'impact d'El Niño dans le cours des céréales et les conséquences que ça pourrait avoir dans des pays comme le Pakistan, l'Indonésie.
Alors là, vous avez deux mondes, vous savez, on dit toujours, il y a le monde du blé et le monde du riz. Et donc ça frapperait plutôt El Niño, puisque sur le Pacifique, le monde du riz. Mais ils n'ont pas besoin, ils ont déjà, comme ils ont en général pas beaucoup d'énergie, ils n'ont pas besoin en plus d'avoir moins de riz. Quoi.
Non, c'est pas...
Moins il y a de riz, plus on
s'amuse. Non, on rigole, mais c'est pas rigolo du tout. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les lois de l'emmerdement maximum font qu'une crise alimentaire pourrait être aux portes de pays qui déjà sont dans des conditions de flux tendus assez difficiles.
L'Égypte.
Voilà, et l'Égypte. Et donc, on voudrait vous alerter sur ça, non pas pour faire paniquer personne, mais pour simplement, puisqu'on est là pour essayer d'avoir une réflexion globale et essayer d'éduquer tout le monde, pour avoir une réflexion d'éducation sur... Vous savez, le printemps arabe, c'était né à l'origine de défaillances sur l'alimentaire. Et quand vous avez des pays qui sont dans des flux tendus sur l'alimentaire, une hausse de 2 degrés qui fait que le blé n'est plus en l'état et ainsi de suite, peut avoir des conséquences dramatiques mondialement.
J'ai été en Égypte là, en décembre de l'année dernière, et il y a quand même maintenant, je crois, 120 millions d'Égyptiens qui vivent sur une bande de terre qui est 5 km de chaque côté du Nil, j'exagère, mais donc vous dites, nourrir 120 millions d'Égyptiens, c'est... Et là, j'ai vu que les Philippins, ils commencent à avoir des problèmes, mais ils sont 120 millions aussi, donc, parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Donc, si tu veux, il y a toute une série de choses, comme tu le dis très justement, on est à la limite de basculer dans un certain nombre de pays, dans des choses désagréables.
Et la crise énergétique renforce
cette défaillance devient de plus en plus évidente pour les pays les plus fragiles. C'est toujours pareil, c'est toujours les plus fragiles qui en prennent la gueule dans les crises. Eh bien, maintenant, s'il y a d'abord un problème énergétique, et si par hasard se rajoute un problème de nourriture, ça va chauffer. Hein. C'est ça. Mais on ne dit pas que c'est bien ou c'est mal, encore une fois. Ce n'est pas une prévision, mais si on dit...
L'état des lieux.
L'état des lieux dans la crise énergétique. Ça, c'est très embêtant.
Alors, je vais revenir maintenant sur trois faits et les conséquences, et je vais faire réagir Charles sur trois faits, qui sont les suivants. Le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP, oui. La voie dangereuse du Pakistan et la sinisation de l'industrie automobile espagnole et ce que ça va représenter pour nous.
Pas sûr.
Alors, revenons sur le premier point qui est le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que, en tous les cas... Parmi les victimes de la guerre en Iran, l'OPEP en fait partie.
Alors là, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est que l'OPEP a été fait pour éviter qu'il y ait de la surproduction. Donc le rôle de l'OPEP, c'est d'empêcher les pays exportateurs de pétrole de trop produire, de se faire concurrence les uns aux autres, ce qui ferait écrouler le prix et tout le monde y perdrait. Bon. Et celui qui jouait le rôle de celui qui acceptait de voir sa production augmenter ou diminuer, c'était l'Arabie Saoudite, qui produisait, mettons, 8 millions de barils par jour et qui pouvait en produire 12 millions, tu vois. Donc, mais ils en produisaient que 8 millions de façon à ce que le prix du pétrole soit aux alentours de 60-70, ce qui leur permettait de vivre. Les Émirats arabes unis peuvent produire 4,5 millions ou 5 millions de barils par jour.
Mmh.
Mais, d'après l'OPEP, ils ont droit qu'à 3,5 millions.
Oui.
Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec la guerre qui a eu lieu, les Émirats Arabes Unis ont reçu à peu près 4 ou 5 fois plus de missiles venant de l'Iran qu'Israël. Donc, si j'ose dire, ça a moyennement plu aux types locaux. Et maintenant, ce qui se dit, c'est j'ai besoin d'empêcher l'Iran de continuer à me bombarder. Donc la seule façon d'empêcher l'Iran, c'est de produire 4 millions ou 5 millions de barils et que l'Iran, qui a ses gisements qui ne sont pas bien entretenus et qui maintenant, ne produisant plus, vont sans doute cesser de produire, l'empêcher de revenir dans le marché. Mmh. Donc ce que fait les Émirats Arabes Unis, c'est qu'ils font le doigt d'honneur à l'Arabie Saoudite en disant « Moi, si ça vous fait rien, l'Iran m'a déclaré la guerre, ben, je ne vais pas réduire ma production pour faire passer du pognon à l'Iran. » Tu vois ce que je veux dire? C'est, donc tu vois bien arriver un monde où, dans le fond, l'Arabie Saoudite, elle n'est pas très mécontente de ce qui se passe parce que aujourd'hui, avec son pipeline, ils n'en exportent que 6 millions par le pipeline qui évite le détroit d'Ormuz ou quelque chose comme ça. Mais il est à 100, à la place de faire 8 millions à 60. Donc tu te dis, tiens, c'est pas mal. Mais les UAE, eux, ils n'ont pas du tout de pipeline.
Non.
Ils sont
non.
à zéro. Mmh. Donc ils touchent 100 multiplié par zéro, ce qui n'est pas terrible. Ils ne voient pas du tout pourquoi ils devraient réduire leur production dans le futur pour permettre à l'Iran de continuer à leur taper dessus. Donc c'est une... Mais alors ce que fait l'Arabie Saoudite qui commence à avoir la trouille, c'est de se dire, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allier au Pakistan parce que c'est une puissance...
Ben justement...
C'est une puissance nucléaire.
On va en parler, mais il est certain que dans cette position de sortir de l'OPEP, il y a aussi un peu une guerre de proxy. Parce qu'on a vu que les Émirats Arabes Unis avaient quand même choisi un positionnement qui était plus proche des États-Unis dans...
Très anti-iranien.
Très anti-iranien. Là où les autres étaient plutôt...
L'Arabie Saoudite était un peu... Mais on ne peut pas oublier qu'un tiers à peu près de la population saoudienne est chiite.
Voilà, c'est là où j'arrivais.
Et c'est plutôt dans les endroits où il y a du pétrole qu'il y a des chiites. Donc, si tu veux, ils peuvent avoir ces problèmes internes. Mais il est certain qu'on voit apparaître un schisme entre, d'un côté, l'Arabie Saoudite et, d'autre côté, les Émirats Arabes Unis, quoi, qui, dans le temps, étaient toujours soudés comme un bloc, quoi. Ça, c'est fini.
Alors, parlons du Pakistan. En fait, vous n'avez sûrement pas vu passer, donc je vous en parle, mais le gouvernement des Émirats Arabes Unis a provoqué un choc la semaine dernière. Il a exigé que le Pakistan rembourse immédiatement un prêt de 3,5 milliards de dollars.
Ils n'ont pas le premier sou.
Soit 20% des réserves de change d'Islamabad, au lieu de refinancer la guerre comme prévu. Donc, les Émirats Arabes ont un peu fait... Un problème la semaine dernière. Et alors, le Pakistan, de son côté...
Ils n'ont pas dû exiger qu'ils soient remboursés. C'était probablement quelque chose qui arrivait à échéance. Et ils ont demandé...
Et ils ont demandé que ça soit... Oui, mais alors normalement...
Fait. Voilà. Ils attendaient, les autres s'attendaient à ce que ce soit reconduit.
Voilà.
Ça pourrait arriver à la France, d'ailleurs.
Oui, ça pourrait arriver à la France. Bon, l'Arabie Saoudite est rapidement intervenue en mettant 3 milliards de dollars supplémentaires. Mais il faut voir que le Pakistan... est quand même un pays qui a le plus été reçu comme l'Argentine par le FMI et passe son temps à être enfloué par les uns et les autres parce que...
C'est un gouvernement militaire corrompu jusqu'à l'os où il y a des problèmes tribaux absolument gigantesques. Et la seule force d'unité, c'est d'aller taper sur l'âne de temps en temps parce que... Ça fait partie des habitudes locales, mais on peut pas dire que ce soit des gens particulièrement sympathiques. Quoi. Ils ont envoyé dans les montagnes l'année dernière, tout le monde s'en est foutu d'ailleurs, à peu près 1,5 million d'Afghans qui s'étaient barrés du Pakistan, et ils les ont envoyés dans les montagnes en hiver, on sait pas ce qu'ils sont devenus, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi des bienfaiteurs de l'humanité, c'est rigolo. Comme quand des Arabes tapent sur des musulmans tapent sur des musulmans, tout le monde s'en fout.
Sinon, en créancier principal du Pakistan, en face, tu as la Chine,
Tu as la Chine.
Qui reste le principal créancier bilatéral du Pakistan. Mais en attendant, ils ont quand même eu besoin de l'intervention de l'Arabie Saoudite. Et ça leur a permis la semaine dernière.
La Chine, elle a cette habitude, tu veux, c'est de prêter de l'argent aux gens pour développer des infrastructures et tout. Mais elle, en général, elle ne remet pas les dettes. Tu vois, elle prête de l'argent, mais elle entend que son argent soit payé. Quoi. Tu vois, c'est pas de la charité. Oui. Les Chinois, c'est pas des grands charitables.
Alors, on a l'impression que la décision des Émirats Arabes Unis a été plutôt motivée par la frustration face aux relations d'Islamabad avec Téhéran.
Oui.
Et ils réclament une position, les Émirats Arabes Unis, intransigeante à l'égard de l'Iran pour ses attaques de drones et des missiles contre les Émirats Arabes Unis et pour avoir menacé les navigations dans le détroit d'Ormuz. Et au lieu de ça, le gouvernement pakistanais a déroulé le tapis rouge aux dirigeants iraniens dans le cadre de ces
négociations.
Et
ils ont, si vous voulez, vous avez deux grands, l'Iran, ça a toujours existé, hein, mettons la Perse, allez, pour parler comme tout le monde. Puis l'Arabie saoudite, qui est dans le gardien des lieux saints, etc., qui sont quand même deux puissances importantes. Et puis vous avez un petit gars qui est là au milieu, et le petit gars, il en prend plein la gueule. Alors il dit, vous êtes gentil, mais j'aimerais bien que le grand, qui était censé être mon grand frère, me protège. Et donc c'est la révolte du... C'est la révolte du petit contre le grand qui s'occupe pas de lui, quoi.
En réalité, là, la question qui se pose, c'est que le Pakistan fait un peu partie de ces pays « too big to fail ». C'est ce que disait, Kissinger, c'était « le Pakistan est un pays où je ne voudrais pas vivre, mais dont je ne pourrais pas me passer ».
Oui, parce que c'était le terrain de chasse. Alors, il faut savoir que le Pakistan est gouverné par l'armée et que l'armée pakistanaise est très, très connue pour ses services secrets qui sont particulièrement efficaces, etc. Ceux qui avaient planqué pendant des années Ben Laden, tu sais, à 100 mètres de l'endroit où étaient les troupes américaines, quoi. Parce que, donc, sont des alliés, on leur file plein de pognon, ils achètent plein d'armes et tout, mais on sait pas très bien à quoi ils servent, ton frère raconte une histoire parce qu'il s'était baladé avec un sac au dos dans les montagnes du Pakistan. C'était pas une bonne idée d'ailleurs. Et il était dans le bus, et dans le bus, il y avait des gars qui. Il fallait que tu mettes ton nom, ton adresse, tu sais, dans le
tous
bus.
Tous les 200 mètres,
tous les 200 mètres, etc. Alors, il y avait la liste des gars, tu sais, tu écrivais ton nom en dessous, il y avait Mickey Mouse, il y avait Superman, ouais. Il n'y avait personne de donner son nom. Donc, tu vois, c'est un monde complètement kafkaïen où tu as des réglementations partout et puis rien ne marche, quoi. C'est absolument effrayant, quoi. Donc, ça a été le résultat de la partition de l'Inde que les Anglais n'ont pas très bien fait en 45, mais enfin, ça, c'est autre chose, en 47-48. Donc le Pakistan, c'est un État qui ne... c'est un pays qui n'existe pas, parce que vous avez... plus tu te rapproches de l'Afghanistan, plus moins l'État d'importance. Mais qui reçoit beaucoup de pognon parce qu'il est à une position stratégique, tu vois, et que l'armée est importante. Donc, c'est un régime de voyous. Tout le monde a très peur de ce qui se passerait s'il disparaissait. Quoi. Ce serait un énorme chaos. Et c'est à l'arrivée, le Pakistan est beaucoup à l'arrivée de ces nouvelles voies russes qui descendent vers l'Inde. Donc, c'est un endroit pénible.
Alors, parlons maintenant du sujet européen qui nous concerne indirectement et qui est quand même intéressant, qui est l'impact de la Chine à venir en Espagne.
Parce que les Chinois font, ils disent, bon, vos usines, de voitures, bon, ça vaut rien. Ça vous fait que vous coûtez de l'argent. Donc, par contre, vous avez quelque chose qui a de la valeur, c'est vos réseaux de distribution.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Pedro Sanchez, donc, s'est rendu à Pékin en avril pour courtiser les investisseurs chinois. Et c'était son quatrième voyage en tant que Premier ministre espagnol. Et il a fait des essais routiers avec une SUV électrique Xiaomi. Et il a dit « Ah mais c'est formidable, j'adore ces voitures, vous devrez venir chez nous. » Et ainsi de suite. Et
faut pas inviter les gens, comme disait mon père, ils viennent.
Ils viennent. Et Sanchez a donc déclaré aussi que l'Espagne souhaitait développer tout ce qui était secteur stratégique dans tout ce qui était les batteries solaires, les voitures électriques, les énergies renouvelables. Et il a formulé une demande de transfert de savoir-faire qui est la façon polie de dire venez chez nous vendre vos trucs parce que...
Venez chez nous assembler des voitures et puis on les vendra partout en Europe. Mais l'Espagne est un très bon Européen parce qu'ils vont aussi, je crois, donner 600 000 nationalités espagnoles à des gens qui arrivaient de l'autre côté de la mer, quoi. Et à partir du moment où ils auront la nationalité espagnole, ils se pourront balader partout en Europe.
Ouais, oui.
On sent la solidarité européenne, là, mais c'est un gauchiste pas possible, hein, c'est le Mélenchon local.
Oui, et alors, comme il perd un peu dans les sondages,
complètement, oui.
L'idée, ça serait justement d'essayer de redonner à son parti, en tout cas, des moyens économiques. Et
surtout de faire sauter toutes les... c'est une bonne idée de faire sauter toute l'industrie européenne en Allemagne et en France, quoi. C'est pour ce qu'il en reste.
Et donc, pour l'instant, ça serait une sorte de réindustrialisation par les décarbonisations. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'anti-américanisme que cela contient.
Ah,
c'est-à-dire qu'il y a aussi une guerre de proxy sous-jacente, puisqu'on se souvient que Sanchez, au moment où... Trump arrive pour aller vers le détroit d'Ormuz, dit « Ah ben non, moi, je suis pas d'accord pour que vous utilisiez nos bases espagnoles. » Donc, grand cri partout, comment ça, ce n'est plus un ami, toi-même, tu sais, tu en es un autre, et ainsi de suite. Et donc, vis-à-vis...
Mais les Anglais ont fait pareil.
Oui, mais...
C'était
après.
C'est-à-dire, c'est la condamnation de l'OTAN. À partir du moment où les Américains ont des bases partout, c'est pas pour que le pays dans lequel ils ont une base dise « Ah ben non, moi, je suis pas d'accord, vous pouvez pas vous servir de cette base, parce que, bah, ou bien les États-Unis, ou bien les gens font partie de l'OTAN, ou ils font pas partie de l'OTAN. » Donc, tout ça, ça veut dire, j'ai beaucoup dit que les grandes institutions qui étaient établies par le pays vainqueur à la suite d'une guerre duraient à peu près 70 ans, puis après, il y avait 30 ans de merdier, tu sais, c'était, vous endormez en 1790, vous réveillez en 1930, vous comprenez rien, 1890, vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Et 1990, vous réveillez en 2030, vous comprenez rien. Donc, on est en train d'assister à l'écroulement de toutes les institutions qui ont été créées par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. L'OTAN, l'ONU, tous ces trucs-là, c'est des machins qui vont disparaître. L'Europe, qui vont disparaître, parce que tu vois, il y a telle différence maintenant entre l'Allemagne et l'Espagne dans la politique économique. L'Espagne est en train de prendre des mesures qu'on pour foutre complètement en l'air l'industrie automobile allemande qui n'a pas besoin de ça, quoi. Les types, en principe, à Berlin, ils s'occupent très bien de faire sauter leur industrie automobile, ils n'ont besoin de personne. Mais là, en plus, ils reçoivent de l'aide. Donc, on sent bien une espèce de débandade généralisée en disant, mais il faut que je défende les intérêts de mon pays, puis j'en ai rien à foutre des Allemands, ou j'en ai rien. Il n'y a plus que nous qui continuons avec l'ADEME à continuer, mais nous, on est particulièrement crétins, quoi. Mais il n'y a plus que la France qui défend l'idée d'une truc européen. Même le nouveau qui vient d'être élu en Hongrie, bon, il n'y a pas tellement de différence avec Orban. Donc, on voit bien, tout ça est en train de se fissurer, de se péter dans tous les sens, etc. Et ça fait partie de la naissance de quelque chose d'autre. Donc, ce que je dis aux gens, c'est oui, il y a un monde qui crève. Mais regardez, il y a aussi autre chose qui naît. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas simplement se concentrer sur ce qui crève.
Je ne sais pas si dans ce qui est en train de se construire, nous allons, nous, Européens, avoir véritablement une place. J'ai l'impression que je vois très bien ce qui est en train de se déconstruire, ce monde européen, le monde peut-être de nos identités en tant que pays. Mais à part la Chine et à part le cercle de Valérie Pieris, je ne vois pas vraiment de notre côté ce qui pourrait être en train de se construire.
Mais regarde le parcours d'Air Liquide, le parcours de Steyr,
oui,
tu vois
là,
tout
tu
cet
prends...
appareil industriel français qui est gigantesque mais qui n'est pas en France, il va bénéficier de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer cette social-démocratie qui est à l'origine de nos... Et que les vrais types compétents qui sont chez Schneider, qui sont chez Total, etc., ils reviendront peut-être prendre le contrôle de la France après. Mais on ne peut pas continuer à survivre dans ce monde concurrentiel qu'a créé la Chine avec la série de crétins qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est pas possible, ils comprennent rien, ils font rien, ils font tout à l'envers. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire on est en train d'assister à la... on dit toujours la fortune est faite par un gars, le deuxième la garde, le troisième la perd, quoi. Ben, on est dans la génération de ceux qui comprennent rien. Et j'ai vu une étude très un type qui était très intéressant, là, qui est un économiste français, qui disait, j'ai regardé les élites de 45 à 70, c'était tous des gars qui avaient fait souvent des très bonnes études, mais pas simplement, ou qui avaient fait des guerres magnifiques, donc ils étaient très diversifiés. Et puis depuis 15, 20 ans, 30 ans, on n'a plus que les mêmes qui arrivent toujours du même endroit.
Alors, je pense que tu fais référence, et je voulais en parler, à Christian Saint-Étienne.
Voilà, qui a fait une très bonne...
Alors, Christian Saint-Étienne est un économiste qui publie aux éditions L'Artilleur, qui est une très bonne maison d'édition vers laquelle je vous renvoie.
Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises.
Vu à plusieurs reprises. Il disait la chose suivante. Il dit, voilà, nous vivons dans un monde où désormais 2000 personnes à Paris, entourées du corps des narcs, qui sont formés aussi par les mêmes pour servir les mêmes, régentent 22 000 personnes en région, de sous-préfets, préfets, ainsi de suite. Et ces gens-là nous expliquent qu'ils seraient l'élite parce que Olivier Nora, parce que, étant une partie de ce phénomène,
de ce monde.
Voilà, et décident d'absolument tout. Et c'est à cause de ces gens-là qu'on crève. C'est à cause et sont exclus de la vie politique désormais de la prise de décision tous les grands ingénieurs, tous les grands patrons, des types comme Proglio qui aurait dû mettre à la tête de toutes les décisions prises autour de l'énergie en France. Pas du tout. Ces gens-là ne sont pas consultés. Personne n'est consulté. On a toute une série de personnes chez McKinsey qui font tourner des tableurs Excel à n'en plus finir.
Et l'un des patrons, c'est qui ? C'est le fils de Fabius.
C'est le fils de Fabius. Pour arriver à toute une série de solutions qui ne veulent rien dire. Donc, encore une fois, voilà ce dont nous crevons de toute une même...
C'est-à-dire que tu as une endogamie de la classe dirigeante qui n'existait pas autrefois, parce qu'autrefois, il y avait différentes façons de monter. Je me souviens, me disaient mes professeurs à l'époque, vous pouviez être un syndicaliste d'EDF et puis vous montiez par ici, ou vous montiez par le fait que vous aviez fait une guerre pas possible et que vous avez été dans des... Et donc, il y avait des tas de façons de sélectionner l'élite, et aujourd'hui, il n'y a plus aucune concurrence. C'est simplement un passage obligé par une série d'écoles, et puis ensuite, HEC, etc. Et on se retrouve avec les mêmes 2000 qui contrôlent les 20 000 qui sont comme eux. Et c'est eux qui prétendent... Donc c'est une espèce de théocratie, quoi. On a une espèce de théocratie parce qu'on a quitté les gens scientifiques. Il n'y a plus de scientifiques là-dedans. Il n'y a plus de vrais scientifiques. Il n'y a plus des gars qui ont fait, Normal Sud Math ou des trucs comme ça, ou les... qui sont corpsards, polytechniciens et corps des mines, non, il n'y en a plus. C'est tous des littéraires et qui ont beaucoup de sentiments.
Oui, alors ça c'est autre chose, parce que comme désormais l'idée n'est plus
Mais produire mauvais, produire dans l'éthique de ces gens-là, c'est pas une bonne idée.
Par ailleurs, comme l'idée a été depuis cette réunion à Lisbonne, je vous envoie vers la fabrique du crétin, de rendre les gens complètement anounaïsés, désormais on parle de ses entrailles. Donc on parle des gens qu'on aime, on fait des photos avec qui on a couché, comme si c'était l'aboutissement de tout, et le monde journalistique continue aussi avec ça.
Qui a beaucoup baissé de qualité aussi et de diversité, parce que comme me disait un de mes amis journalistes il y a quelques années, il y a que deux sortes de journalistes en France, les gens honnêtes et ceux qui ont un boulot, quoi. C'est-à-dire ils sont tous devenus achetés, mais grossièrement achetés, quoi. Et donc, on a un peu de recul, on se dit, mais ce pays est tombé sous la coupe d'une, c'est ce que je passe mon temps à dire, d'une classe criminelle, et qui gère cyniquement, en faisant appel à des sentiments... Vous savez, vous avez le pathos, l'éthos et le logos. Normalement, c'est par le logos qu'on gouverne, c'est-à-dire qu'on explique aux gens, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés, allez... aussi logiquement qu'on peut. Et puis le pathos, c'est dire, mon Dieu, c'est terrible, les chômeurs, les pauvres, je m'en rendais compte, c'est affreux, qu'est-ce qu'on on fait rien pour eux et tout. Et quand vous êtes en face, il m'est arrivé un jour, t'as un type qui utilisait que le pathos, moi je sais pas quoi dire, parce que je me retrouve en face d'un crétin qui m'explique que c'est horrible, la mort c'est pas bien, vous dites, mais c'est pas le sujet, quoi.
C'est très difficile de sortir d'un discours qui est autour du pathos. J'ai eu ça récemment sur les réseaux sociaux à propos du décès de Loana. Alors, cette pauvre Loana, effectivement, on peut dire cette pauvre Loana. Bon, une fois qu'on a dit ça, si tu regardes en tant que personne, c'est une jeune femme qui avait choisi de se mettre dans ce réseau de lumière.
Oui.
Et en cela, c'est quand même un choix. Elle gagne un concours qui était Love Story. Elle gagne 1 million de francs. Bon, à l'époque, voilà. C'était beaucoup d'argent. Et cet argent, elle a. Alors on me dit, oui, mais la pauvre, elle s'est toujours mal entourée. Les gens. Je dis, mais, oui, mais à partir de quel moment tu peux considérer quand l'individu.
Qu'on est responsable de son propre destin.
Oui.
Ben, c'est la vraie question de la responsabilité. C'est pour ça qu'avec. Léonard, on a fait une émission sur qu'est-ce que la liberté. Ben, la liberté, si vous voulez, c'est ce qu'on avait dit, c'est dans le fond de refuser que quelqu'un influe sur votre destin. C'est vous qui êtes seul le maître.
Parce que moi, ce que je vois dans le parcours de Loana, je vois bon, une jeune femme qui...
pousser.
Non, mais quand elle est tombée enceinte, abandonne le bébé, bon, le met à la DAS... c'est un choix qui a été le sien. Alors on peut dire oui, mais elle n'avait pas le choix. Ben, peut-être qu'elle avait le choix d'en parler au père parce qu'elle a choisi de ne pas dire au père et dire que l'enfant était mort. Donc le père ne savait pas que cet enfant existait. Je ne trouve pas ça forcément très bien. Mmh. Ensuite, fait le choix quand elle a cet argent toujours de ne pas reprendre cet enfant. Et quand elle décide de le reprendre plus tard, évidemment, le père avait appris et donc a demandé la garde exclusive qu'il a obtenue. Forcément, puisqu'elle lui avait menti. Donc
il y a toute une série de décisions qu'elle a prises, qui sont des décisions qui ont gravé.
Et on me dit, tu as été très dur, tu n'as pas de cœur, c'est parce que tu es une sale bourgeoise, et ainsi de suite.
Ça je dis, mais ça, tu vas peut-être renverser la proposition. Si toi et moi, on est arrivés à un statut de bon bourgeois, tranquille et tout, c'est qu'on a essayé de prendre les bonnes décisions toute notre vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire... je condamne pas les gens qui ont pris une mauvaise décision, mais je ne suis pas surpris si les gens qui prennent les mauvaises décisions ont de mauvais résultats. Ce qui est étonnant, c'est que les gens prennent des mauvaises décisions et s'attendraient à ce que le résultat soit bien. Ben non.
Et après, bon, ben, y a la vie qui continue, c'est-à-dire que pour son bien, il aurait fallu qu'elle sorte de ce besoin d'être dans la lumière tout le temps.
Bien sûr, mais tu peux pas.
Et ensuite, bon, les drogues qui vont avec, et ainsi de suite. Et tout le monde savait qu'elle n'atteindrait pas 50 ans.
C'est une décision personnelle.
C'est une décision personnelle. Ses dents étaient ici, il y a un moment où elle faisait 120 kilos, enfin bon.
Oui, non, mais il y a eu toute une décision. Donc, encore une fois... Oui, c'est de l'essentiel de la... On est responsable en grande partie de ce qui nous arrive et prétendre que... il faut peut-être... Mais tu ne peux pas prétendre que quelqu'un qui prend sans arrêt les mauvaises décisions est à plaindre. Il est peut-être à aider, mais il n'est pas à plaindre. Moi, pour moi, il y a une différence essentielle entre aider les gens et... Parce que quand tu les plains... Ça t'évite aussi d'avoir à t'en occuper. Ce que je veux dire, c'est... Oh là là, moi, je connais le nombre de gens que je connais qui adorent l'humanité et qui détestent leurs voisins. C'est considérable. Donc, on revient à ça, si tu veux. C'est qu'on a créé une société partout en Europe où, dans le fond, il y a tous ces gens qui prennent des mauvaises décisions, qu'on continue à financer, qu'on continue à porter, etc. Eh bien, je crois que c'est ça qui est en train de se terminer. C'est-à-dire qu'on va revenir à une société où... si tu fais pas ton lit, tu dors pas très bien, quoi.
Moi, je continue d'être absolument décidée sur le fait que leur grande idée, c'est d'avoir 1%, 2% d'une population éduquée qui
fera
le boulot.
Ça. Et c'est le truc de Palantir.
Oui, et le reste va être maintenu dans une sorte de revenu universel. À bouffer
mais
des testis croustilles. Bien sûr que non, ça ne marchera pas. À bouffer des testis croustilles et
à regarder
Netflix toute la journée. Et je pense que...
Là, c'est les pilules bleues et les pilules roses, tu te souviens? C'est...
Ah ben ça, c'était... La pilule rose et la pilule bleue, c'était encore autre chose. C'était pour savoir si tu voulais avoir... La pilule rouge, c'était est-ce que tu veux avoir accès au savoir brutal?
Oui.
Tu prends la pilule rouge et tu vas voir l'univers tel qu'il est. Ou tu préfères continuer de vivre dans la Matrix?
On donne... Alors, il y a les gens rouges qui sont...
C'est différent parce que les gens rouges, c'est, ils ont le droit... Ils ont reçu le droit de savoir parce qu'ils sont bien nés ou ils ont eu la loterie génétique. Mais au moins, dans Matrix, le choix t'était donné. On te disait, tu as le choix de voir avec tes yeux. C'est un peu la pomme d'Adam et Ève.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que si tu croques la pomme, tu partiras de l'Éden.
Tu partiras de l'Éden, mais tu verras...
Tu verras le monde.
Tu verras que tu meurs.
Et tu pourras faire tes choix. La pilule bleue te tient juste dans un état, parce que tu es dans la matrice, donc tu ne sais pas que tu as froid, tu ne sais pas que tu as faim, tout est pris en charge pour toi.
Et c'est exactement ça. Maintenant, je vois surgir avec terreur ces gens de Palantir qui disent seuls ceux qui acceptent ou qui ont le droit de naissance d'avoir la pilule rouge peuvent gouverner, les autres, ils circulent en neuf s'ils n'ont pas d'importance.
Mais du coup, là, tu n'as plus du tout d'ascenseur social. C'est-à-dire, tu nais à côté de l'école alsacienne ou pas?
Ou dans l'école alsacienne. Et donc, on voit bien arriver cette tentative de... Comme eux, ils ont pris le pouvoir, ils sont tout en haut, ils disent, mais dans le fond, il faut qu'on reste là. Donc, on va crétiniser les autres.
Et ça, on y arrive.
Pas tant que ça, parce qu'on en voit passer des gens ici quand même qui sont tous crétins.
Ils arrivent quand même à crétiniser. Et quand ils n'y arrivent pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de très pernicieux qui arrive. C'est quelque part rendre les gens mous par la bouffe, par la diététique. Parce que je suis désolée, là, il y a eu tout un débat autour du testicrousti, là, des poulets et tout ça, à 8 euros et ainsi de suite. Mais oui, mais quand tu mets des éponges énergétiques comme ça dans ton corps, qui sont frits, qui sont des poulets qui viennent d'Ukraine,
qui sont pleins de médicaments aussi,
de lipides, d'hormones saturées et ainsi de suite, ne me dis pas qu'en 7 ans, on ne va pas faire une génération de diabète de type 2 de personnes qui vont être...
J'ai vu des photos aux États-Unis d'une plage en 1960, tous les mecs étaient normaux. Puis la même plage maintenant, ils sont tous dans des voitures roulantes tellement ils sont gros.
Mais avec des gamins qui ont tous, tu les regardes, des hanches plus larges que leurs épaules, des garçons, parce qu'ils deviennent gros et tu regardes leurs hanches, tu te dis c'est pas normal d'être fait en bouteille d'Orangina comme ça à 15 ans. Ça devrait être l'inverse.
Donc on voit bien, et ça c'est le péché mortel qu'on a dans nos sociétés. C'est qu'on est passé quelque part dans les années 60, après les années 70, de recherche générale du meilleur et qui viennent de la base, ça n'avait aucune importance. Enfin, c'était toute la grande époque de l'école républicaine, c'est-à-dire c'était Peggy, c'était Jaurès, c'était Camus, c'était un truc en disant non, maintenant on tire un trait sur tous ces gars qui arrivaient de la base. On va prendre que les... C'est ce que je dis, il y a 90% de cette classe dont tu parles, les 2000 là, qui viennent de 60 jardins d'enfants à Paris, quoi. Donc ils viennent tous du même coin, c'est une monogamie terrible. Et on n'a plus que des crétins obéissants qui... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce que disait, je crois que c'était Audiard, il disait le problème avec les crétins, les vrais, ceux qui sont au pouvoir... C'est comme ils sont crétins, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils sont crétins.
Oui.
Parce que pour arriver à l'idée que je suis crétin, il faut déjà réfléchir. Tu vois, tandis qu'ils sont tellement persuadés qu'ils sont au-dessus, que c'est les autres, les crétins, que les crétins ne...
Ils vont continuer à faire ton thème astral, je suis complètement d'accord.
C'est complètement crétin d'avoir des gars qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont bêtes.
Mais je voudrais revenir, parce que c'est mon obsession en ce moment, sur l'alimentaire et la diététique. Tu sais... Autrefois, on en parlait récemment, le monde, on bouffait des tripes, on bouffait des pieds de porc, on mangeait des cafés âpres, on mangeait des choses qui avaient du goût et qui avaient...
Du concoyote, du Munster, qui étaient des fromages.
Voilà. qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des sortes de pokéballs tout mou, où on te met de la mangue avec des petits bouts de poisson, on arrose le tout de sauce sucrée et on te donne ça. On bouffe des trucs qui ont le même goût, qui sont déjà pré-mâchés. Qui sont déjà pré-mâchés, il n'y a plus rien à faire. Tu te dis, mais tout est devenu, c'est des poulets qui sont frits, en même temps sucrés.
Ouais, je me suis allé poulet les Gascons quand j'étais enfant, quand j'étais dans le Gers là-bas. Bonjour à tous les Gascons là. Les poulets qu'on nous servait, ils avaient des grosses cuisses parce qu'ils couraient dans la campagne, parce qu'il y avait des renards ou j'en sais rien. Mais maintenant, vous avez des poulets qui ont des petites pattes grosses comme ça. C'est très étonnant. Et des blancs énormes. Bref. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a littéralement, sans vouloir exagérer, et c'est pas dans le sens d'avoir des couilles, mais émasculé, déresponsabiliser tout le truc politique, ça a été d'empêcher les gens de se prendre en main.
Oui.
Et c'est ça qui va tomber. Et c'est pour ça que je dis aux gens, c'est une bonne nouvelle, les gars. Parce qu'une fois, qu'on ne pourra plus importer des poulets ukrainiens qui sont dégueulasses...
Oui, mais ça, attends, on va continuer à le faire, parce que c'est toujours pareil.
Mais non,
on met des normes européennes partout,
ça va disparaître,
j'espère, parce que ça tue les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends, tu as ces poulets qui arrivent, qui sont vendus, je crois, dans le commerce, là, du coup, à 1 euro le pilon. Mais comment tu veux, avec la rentabilité, qu'un agriculteur arrive à vendre ce poulet à ça?
C'est mon histoire que je racontais des cerises... sur le Mont Ventoux, là, il n'y avait pas de très bonnes cerises, des grosses cerises noires qui étaient merveilleuses.
Oui, bien sûr.
Et ben, maintenant, on a interdit de mettre le produit qui empêchait les insectes de les bouffer. Et donc, on fait venir toutes nos cerises
de Turquie.
Et sur le Mont Ararat, là, où il doit y avoir le truc de Noé et de son arche, là. Et qui sont pleines de ces produits-là, mais ils peuvent rentrer. Donc, on a tué nos paysans, on laisse rentrer les autres.
Oui, mais je sais, j'y suis allée, et ils te disent, ça nous revient trop cher, parce qu'il faut prendre des ouvriers pour les cueillir, et ainsi de suite. En plus, elle se pourrit très vite, la cerise, et ainsi de suite. Du coup, ils font des kiwis. Super,
c'est pas vraiment local. Bon, alors, revenons à nos moutons, si vous voulez. Donc, on a cette espèce d'écroulement de notre société. Et alors, maintenant, revenir un petit peu à ce que là, pour moi, aujourd'hui, les marchés financiers sont dans un état d'équilibre précaire, parce qu'après tout, autant en parler un peu, c'est mon métier. Et il y a deux camps, si je peux me permettre. T'as le camp de ceux qui disent le pétrole, ça va pas durer, l'inflation, ça va pas durer, c'est juste une question de pétrole, le prix du pétrole va rester, dès que ce sera fini, il retombera à 60, donc tout va bien. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, si je peux me permettre, ils empruntent en yens, ils achètent du dollar australien, ils achètent des obligations américaines, ils achètent, tu vois, parce que t'empruntes à 0,75 et puis tu vas investir à 4,5 là-bas. Dans les obligations américaines, donc n'est pas... Et dans l'ensemble, ils ne sont pas inquiets du tout. Et le cas échéant, pour les plus... Ils achètent de la technologie qui va nous sauver tous, tu sais. Voilà. Bon, ça, c'est... Mettons les optimistes. Et puis ceux qui sont moins optimistes, ils disent « Ouh là là, je ne suis pas du tout pour cette histoire d'inflation. » Et nous, on commence à voir ici... c'est pas tellement l'inflation qui nous préoccupe, c'est que vous savez, je le dis toujours, c'est qu'une augmentation des prix du pétrole, c'est dans le fond une augmentation des impôts. Donc en France, on vient de prendre une augmentation des impôts l'an dernier gigantesque, et puis on en prend une deuxième, mais cette fois-ci qui est faite par l'extérieur. Donc, ce qui pourrait se péter la gueule beaucoup plus vite que l'inflation n'apparaît, à la limite, c'est l'activité économique, parce que les gens là, ils sont en train de... Alors si ça se passe, à ce moment-là, tu vas avoir... peut-être, c'était peut-être pas une bonne idée d'emprunter du yen pour acheter des obligations, parce que les obligations vont peut-être passer à 6 ou à 7, tu vas perdre beaucoup, donc il faudra que tu rembourses ton yen, ou peut-être le yen, il va commencer à monter pour des raisons X, Y ou Z. Donc, tu as une situation aujourd'hui où tout le monde est short le yen, et long une série d'actifs, et puis tu as une autre catégorie d'investisseurs, dont nous faisons partie, qui se dit, si ça vous fait rien, je vais avoir des valeurs d'énergie, je vais pas prendre de dettes et tout. Et depuis 3-4 ans, c'est toujours ceux qui étaient short le yen qui gagnaient, tu sais. Depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé l'université d'épargne, on se débrouille pas mal de notre côté, tu vois. Mais ça peut pas rester, les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps.
Non, Oui, il va.
Il y a un moment.
Un monde ne peut pas avoir deux soleils, et il y a un moment où un soleil va s'imposer, et on va voir.
Et on va voir ce qui va se passer.
En anglais, on dit something's got to give.
Voilà, on regarde et on dit bon, il y a cette espèce d'équilibre instable pendant une. Regarde, les valeurs de semi-conducteurs sont montées de 27% en un mois, ce qui est phénoménal. Les valeurs pétrolières ont baissé de 2%. Mais l'embêtant, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut plein d'énergie.
Ah oui, bien fois que j'ai regardé, oui.
Il y en a des deux qui...
Qui a tort, oui.
Donc j'essaye de dire qu'on est dans une situation d'équilibre instable aujourd'hui, et que le prochain grand mouvement, ce sera ou bien on aura complètement tort, ou bien les autres auront complètement tort, mais on ne peut pas rester à moitié enceinte, tu vois.
C'est, oui, non.
Il y a un moment où il faut prendre la décision. Donc pour moi... C'est un moment extrêmement important et on commence à avoir des signes. Là, quand je monte là-haut, ça veut dire que c'est Didier et compagnie avec qui je travaille, vous savez. C'est qu'ils commencent à avoir des signes quantitatifs, parce qu'ils sont très quantitatifs, hein, que la croissance économique décélère un peu partout dans le monde. Donc à ce moment-là, ça veut dire que...
Sachant qu'on a une hausse des coûts énergétiques et une reprise de l'inflation.
Voilà, donc là, je veux dire, et aux États-Unis, tu regardes, la consommation reste soutenue. Mais tu regardes la consommation aux États-Unis.
Oui, mais elle est soutenue par qui ? Par le top 1%?
Voilà, ben elle est soutenue par les 20% qui sont dans l'économie de la connaissance, etc. Et les 80%, eux, leur niveau de vie baisse et ils ne consomment pas. Donc, tu as ces gars-là qui consomment comme des fous.
Qui continuent à aller en vacances à Hawaï, mais par contre, les autres arrêtent d'acheter des œufs.
Voilà, les autres, ils prennent... Donc, il y a aussi, là-dessus, s'ajoute un problème politique, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir que savoir que tout le monde est content ici, là.
Oui. Mais ceux qui sont là, ils sont pas contents.
Ceux qui sont là, mais on n'en parle pas à la radio, on n'en parle pas à la télévision. Ils vont pas chez, ils passent pas sur les télévisions, etc. Et ils sont pas assez peu sur les réseaux sociaux. Ils y vont pour écouter, pour regarder, mais ils participent assez peu. Ceux qui participent à les réseaux sociaux, ceux qui donnent des idées, etc. C'est plutôt des gens de la première classe et qui sont pas d'accord, tu vois, parce que c'est nous, quoi. Voilà, en disant, nous, on n'est pas d'accord avec ce que font ces cons-là. On aime les gens d'en dessous, mais ça fait rien, quoi. Donc il y a un vrai, cette espèce de séparation dans le monde financier correspond aussi à une séparation sociale très forte et qui amène à terme à des problèmes politiques aussi, parce qu'il y a plus de cela que de cela. Quoi. Donc on voit bien que cette espèce de monde fondé sur des fausses créations de valeur, les fausses créations de valeur, c'est TikTok, c'est tout ça, c'est pas stable. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'on est rentré vraiment dans un monde instable. On était dans un monde assez stable, et puis maintenant, depuis quelques années, on sort de ce monde stable pour aller dans un monde instable. Et c'est à ça qu'on essaie de préparer les gens dans l'université d'épargne. Mais enfin, c'est pas... C'est une chose de dire ça va devenir instable, et c'est de l'autre de dire, c'est déjà un gros progrès si on dit ça. Mais c'est ensuite la deuxième, c'est de dire, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de cette instabilité qui arrive? Et c'est là où on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que l'analyse peut être correcte, mais les solutions qu'on trouve sont les mauvaises, quoi. Mais je crois que toutes ces espèces de fausses solutions qu'on nous a offertes, c'est-à-dire d'emprunter pour payer des gens à ne rien foutre, ça marche plus. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un moment important dans l'histoire. Où le consensus qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais de guerre, etc., ça a l'air de marcher moyen. Quoi.
Non, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce que, comme disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire. Donc, par exemple, avoir les gens qui sont au gouvernement en France, avoir désarmer la France comme ils l'ont fait pendant 30 ans en permettant il reste 80 000 soldats en France, quoi.
Sachant que pour tout homme au combat, il en faut 5 en back-office.
Voilà, donc il y en a peut-être 200
000. En pratique, sur le terrain.
Et donc, les gens, en abandonnant la sécurité énergétique, en abandonnant l'armée française, en abandonnant les frontières, etc., il laisse notre pays complètement vulnérable dans cette période où tout change, quoi. Et ça, c'est.
Mais ça, c'est parce que c'est parce qu'on n'a aucun homme d'État depuis.
Mais il y avait Seguin.
Depuis Pompidou. Oui, mais Seguin n'a jamais été non, un poste de pouvoir.
L'erreur de Chirac, si tu veux, c'est à la place de nommer ce crétin de Juppé.
Encore une fois, le drame des inspecteurs des finances de ce pays, voilà, c'est le drame des inspecteurs des finances.
Il aurait fallu prendre Seguin comme Premier ministre, il a pris Juppé, et ça a été un désastre.
Mais de toute façon, Chirac a été un désastre pour,
du début à la fin.
Il a trahi
le gaullisme comme peu de gens l'ont fait, si Sarkozy a fait aussi bien.
Il a trahi la nation.
Et c'est curieux, parce qu'il a... Pour un gaulliste, l'État, c'est très très important. Il a aussi trahi l'État. Donc, il a trahi la nation, il a trahi l'État.
Et comme on dit toujours, la gauche a trahi le peuple, la droite a trahi la nation, en l'espèce
et
Chirac,
mais personne. Et les gaullistes ont trahi l'État. Donc, c'est vraiment une drôle de chose. Donc, devant nous, qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir rebâtir l'État, c'est-à-dire le faire maigrir et lui donner des muscles. Et puis... Je ne sais pas qui va le faire, d'ailleurs. Et puis ensuite, il va falloir rebâtir la nation. Avec ce qu'il y a. Mais ça va être dur. Hein.
Ouais. Enfin, aux hommes de bonne volonté, rien n'est impossible.
Voilà.
Bon, eh ben, écoutez, on a fait un petit tour du monde par un certain aspect et de ce qui nous pend au nez, en tout cas en France.
Mais pas qu'en France, en Angleterre, ils s'effondrent.
Mais bien sûr,
en Allemagne, c'est dramatique. En Espagne, ils trahissent comme ils peuvent. En Italie, il y a cette pauvre Madame Meloni qui fait ce qu'elle peut. Mais enfin, donc tu vois bien, c'est...
Ils ont quand même une dette courante, bien qu'elle soit détenue par les Italiens, qui est quand même très haute. Et l'Europe qui les enquiquine, en veux-tu, en voilà. Donc elle fait ce qu'elle peut. Et,
elle fait ce qu'elle peut. Mais en tout cas, ils ont des excédents des comptes courants. Ils ont des excédents de déficit primaire. Ils n'ont pas de déficit primaire. Ils ont un surplus primaire, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent.
Avec ce qui n'est pas notre cas.
Dette, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a déficit extérieur.
Nous, on a un double déficit. Yeah.
5% de déficit, c'est complètement monstrueux.
Et on ne fait rien pour enrayer
non,
cette affaire.
Parce qu'on refuse de considérer que l'État... Regardez, l'histoire de Charles Deloncle, c'était incroyable. Ce type qui dit, mais regardez le coulage qu'il y a, il montre toutes les saloperies qu'ils font, les conflits d'intérêts et tout. Et vous avez la gauche qui dit, il attaque le système d'information publique. Ben oui, puisque c'est que des ordures.
Non, mais de toute façon, c'est pas ça la question. On peut quand même légitimement se poser la question aujourd'hui, en 2026, de la simple nécessité d'avoir une télévision d'État. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'une armée ? Oui. Est-ce qu'on a besoin de la police ? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des tribunaux ? Oui. On peut dire, est-ce qu'on a besoin d'une école d'État ? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une télévision en 2026 qui soit payée par nos impôts ? On se permet de poser la question.
Et qui coûte 4 milliards ? Est-ce qu'on a besoin d'un ministère de la Culture ? Non.
Non, mais il y a des choses où vous dites, mais attendez, sachant que l'argent, il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'elle aille aux choses importantes, dans la série de mes préoccupations, avoir une télévision publique pour Joséphine Angardien, franchement, c'est pas tout en haut parmi ma liste de courses.
Non, mais ce que j'ai vu aussi, c'était ce brave...
Et l'Eurovision, tu vois, je pourrais vivre sans, très honnêtement.
Moi, je regarde plus jamais la télévision, sauf les matchs de rugby.
La dernière fois que j'allumais la télévision dans ma chambre, c'était pour regarder Notre-Dame qui brûlait, c'est te dire si je m'en sers.
Là, c'était pour pleurer abondamment.
Bah, c'était pour être sûr que c'était vrai, et puis pour suivre en direct, parce que je n'avais pas de réseau dans ma chambre.
Ça veut dire qu'il y a toute une série de ce que j'appelle des faux boulots qui ont été montés par cette espèce de société de la bienveillance. Là encore, il faut relire Ayn Rand. Relisez Ayn Rand, elle vous décrit la société qui a été créée en 58 ou 62, je ne sais plus très bien. La grève, là,
Atlas Shrugged.
Relisez-le, parce qu'elle décrit les méfaits d'une société où tout le monde... Et là, le lait de la tendresse humaine coule à flot, si vous voulez, la société d'Olivier Nora, là, comment il s'appelait, tous ces trucs qu'il disait, mais c'est horrible, il nous empêche de... parce qu'ils ne gagnaient pas un rond, donc ils n'ont pas de raison de vivre, c'est-à-dire...
Qui est aussi une société, et j'aimerais en parler, qui a été très maillée avec... des réseaux où il y a eu de la pédophilie sur les enfants.
Il fallait que tout le monde soit libre.
Oui, il fallait, avec Maznev, avec ainsi de suite, des réseaux qui étaient très souterrains.
Mitterrand.
Oui, et quand...
Enfin, le fils.
Tous les Gide, tous les... Il y a quand même eu des choses...
On nous a fait lire Gide jusque-là, alors que c'était horrible.
Et tout ça était têtu. Et quand une affaire sortait, comme l'affaire Duhamel, enfin, avec sur son
film.
On n'en parle pas.
On ne sait pas toujours s'il a été jugé. Ou l'affaire du. Comment il s'appelait, Miller
Oui, bah, c'est toujours pas jugé.
Toujours pas jugé. Et puis,
On entendait parler des trucs sur Jack Land, on entendait parler des trucs sur Douste Blasi, sur des trucs comme ça. Et tout ça a été. Et tu te dis, il y a quand même eu des réseaux, des liens avec une...
Pour qu'il soit littéralement...
Avec une pédophilie, quand même.
Non, mais c'était qu'il ne soit jamais condamné. Et alors, le deal, c'était, bon, je te fais pas condamner pour des histoires de cul, et toi, tu me fais pas condamner pour mon histoire d'argent.
Mais attends, moi, les histoires de cul, ça me gêne pas, tu vois.
Ah non, non, mais avec les enfants, ça me gêne.
Voilà, mais c'est ce que je veux dire. À la rigueur, les histoires de cul, il y en a toujours eu, j'en ai rien à foutre, qu'ils se lient une petite pépée.
Ah,
mais là, on parle des enfants, c'est quand même autre chose.
C'est-à-dire, il y a des histoires de cul qui sont criminelles avec les enfants, et donc ceux-là, ils étaient complètement protégés, et le prix, c'était que de l'autre côté, on pouvait faire des affaires commerciales extrêmement dégueulasse, etc. Le capitalisme de connivence, et tout. Et donc, il y a eu une collusion entre le capitalisme de connivence et la pédophilie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Et c'est ça dont on crève. Parce que s'il y a une immunité qui est donnée à une classe dirigeante dans ses aspects les plus abominables.
Abominables.
Donc, tout ça, ça nous amène à des réflexions. C'est que c'est en train de crever. Ça va être douloureux, mais vain Dieu, qu'est-ce que c'est agréable de penser que ça va crever, parce que c'est ça, c'est cette espèce de pourriture intellectuelle dont on meurt.
Et puis surtout, quand des personnes normales devaient s'approcher de ces cercles, elles devaient partir dans l'autre sens.
Elles étaient écartées tout de suite.
Hein. Oui, parce que, et puis aussi, toi, tu te dis, enfin, moi, je sais pas, si j'arrivais dans un truc et je mettais le doigt là-dessus, je me dis, bon, bah, soit j'ouvre ma gueule et je suis ostracisée tout de suite, soit je me barre, parce que de toute façon, je suis un petit pion et je suis personne par rapport à ces gens-là et je vais me faire écraser tout de suite.
Ce que tu dois passer, ce par quoi tu dois passer, c'est faire des saloperies pour qu'ils aient quelque chose sur toi.
Oui, aussi.
Donc, tous ceux qui sont au pouvoir, il y a quelqu'un qui a quelque chose sur eux. Mmh. C'est un peu gênant, quand même, non?
Un petit peu, oui.
Voilà, donc c'est pas... D'un côté, c'est une condamnation très forte de ceux dont on a vécu depuis 30 ans, tous. De l'autre côté, c'est... On en voit la fin. Donc, si vous voulez, pour moi, je regarde, je me dis, on en voit la fin, et ça me remplit de bonheur.
Bon, eh bien, on croise les doigts, on espère que cette fin est proche. Voilà, mais écoutez, comme d'habitude, on espère que cette émission vous aura intéressé. Si vous avez envie, posez des questions en dessous, on y répondra. Et on vous dit en attendant, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup.